Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour. Nous avons aujourd'hui à présenter une association vaillante qui est la CNARELA, Coordination nationale des associations régionales des enseignants de langue ancienne, avec la présidente Marie-Hélène Menot, venue spécialement de Bordeaux. Et bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Elisabeth.
Et nous avons Sylvie Barthes avec nous, qui est membre de l'ARELA d'Alsace et qui organise, qui est extrêmement active et qui organise, par exemple, des Olympiades dont elle nous parlera. Alors, avant toute chose, je voudrais rendre hommage à celles, puisque c'est deux femmes, celles sans lesquelles je n'aurais jamais pu lancer le Festival européen de latin et de grec en Bretagne, qui en est bientôt à sa troisième édition. Et il s'agit de Françoise Marquand, la présidente, qui est à Brest, et de Cathy Gestinquet, la vice-présidente, qui est à Rennes. Et je les remercie encore, et je vous remercie d'ailleurs, Marie-Hélène, d'avoir pu relayer tout cela à l'échelon national. Alors, vous allez nous dire, nous nous battons beaucoup, mais vous êtes en train de me dire que tout va bien. Tout va bien, alors c'est un peu curieux, parce que pourquoi nous battons-nous? Enfin, donnez-nous déjà des chiffres qui vont lever les troupes, qui vont aider les troupes à se battre.
Alors, ce qui va aider les troupes à se battre, c'est que les langues enseignes, le latin et le grec, sont la seconde langue enseignée après l'anglais.
C'est-à-dire qu'elles battent l'allemand.
Tout à fait, ce qui peut paraître effectivement surprenant. Et malgré ces chiffres, donc, qui sont considérables, par exemple, nous sommes en 1999, il y avait 584 000 latinistes. En 2005, nous en avons encore 529 000. Il y a une petite diminution du latin. Et paradoxalement, le grec, lui, progresse, puisque en 1999, nous comptions 27 577 hellénistes et nous en comptons maintenant 36 000, c'est-à-dire nous avons observé une progression de 8 400 hellénistes. Et cela est paradoxal, alors que nous avons beaucoup de difficultés actuellement à maintenir des sections, maintenir un enseignement pour des raisons d'économie.
Alors que la demande existe.
Oui, alors pourquoi les grognassous comme moi estiment-ils que dans leur jeunesse, le latin et le grec faisaient partie de l'éducation normale, l'enseignement normal plus exact, mais de l'éducation aussi d'ailleurs, le lapsus était révélateur, de l'homme et de la femme de bien. Ça a baissé quand même.
Cela a baissé du moment où, en 1991, lors de la réforme Jospin, le latin et le grec sont devenus des matières à option facultative. Et c'est là, finalement, la solution à la question que vous vous posez. Dès qu'une matière devient facultative, eh bien, elle est menacée.
Alors, Sylvie Barthes, faut-il d'abord, à votre avis, que le latin et le grec redeviennent des matières imposées dans le cursus. Et d'autre part, parce que les parents, tout le monde va s'ébaubir à ma requête, puisque c'est une requête, finalement, en tous les cas pour moi. Et les parents vont dire, et les autres vont dire, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux apprendre le chinois, m'a-t-on dit quand je tenais une librairie.
Alors, pour ce qu'il en est de l'enseignement optionnel, je ne pense pas que ce soit l'option en tant que telle, mais je crois que c'est le fait qu'elle soit en concurrence déloyale avec beaucoup d'autres propositions, souvent démagogiques à mon sens, et que par ailleurs, pour les élèves qui veulent faire des études de littérature, en revanche, le fait de rendre le latin optionnel est à mon avis une erreur. Et je constate en tant que professeur de littérature française, en terminale, combien les latinistes sont avantagés pour aborder les œuvres que nous avons au programme de littérature, mais également, évidemment, tout ce qui concerne la philosophie.
Et le grec, donc, on a besoin du grec pour la philosophie, non ?
En ce qui concerne le grec, c'est évident qu'il faudrait le coupler avec le latin et que le fait de faire entrer en concurrence l'une et l'autre matière est une erreur à mon sens. Et j'ai un exemple dans ma famille proche. Je connais une jeune fille qui, entrée par l'adoption dans sa famille avec un handicap mental léger, a pu, grâce aux langues anciennes, retrouver le goût à la scolarité et actuellement prépare un bac SMS. Et toutes ces connaissances, notamment en grec, l'aide considérablement à aborder le programme de biologie et puis lui donne aussi des réflexes, notamment à l'oral, par exemple, de français, où elle a pu donner l'étymologie du mot autobiographie. Finalement, ce qu'on constate, c'est que c'est la différence et la distance culturelle, symbolique avec le savoir, qui est contournée par cet enseignement qui permet à tout jeune, quelles que soient ses origines, d'accéder finalement à nos codes culturels et de trouver sa place dans notre société.
Mais alors pourquoi ? Parce que c'est un abracadabra ? Parce qu'ils comprennent mieux le sens des mots ? Parce que qu'est-ce qui, à votre avis, dans cette potion gréco-latine, peut prêter à ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un terme pompeux, la remédiation ?
Je crois qu'il y a plusieurs aspects dans ce processus. Le premier, évidemment, est linguistique. Et c'est vrai que là, nous entrons pleinement dans cette priorité de l'enseignement du socle commun qui met la maîtrise de la langue française au premier chef. Évidemment, héritière des langues latines et grecques, la langue française, qui est assez complexe, mérite finalement une entrée progressive. Et le latin et le grec sont une aide vraiment considérable pour en comprendre les mécanismes. Mais je dirais pas seulement. On a marqué aussi l'apprentissage des langues étrangères. Moi, je constate que les latinistes sont plus à l'aise en allemand, sont plus à l'aise en espagnol, mais également en anglais, parce que nous travaillons toutes les structures linguistiques, mais également le lexique. Et qu'à travers cet enseignement, ils sont armés pour aborder l'ensemble des autres langues. Moi-même, je viens de donner une formation en espagnol en Colombie. J'ai appris l'espagnol en 6 mois et je me suis fait parfaitement comprendre de mes amis colombiens et j'ai compris ce qu'ils me disaient grâce, bien sûr, au bagage latin.
Ça, ce sont des langues latines. Donc, on imagine bien que les langues latines, quand on connaît le latin, c'est déjà mieux. Et ça, vous avez tout à fait raison. Maintenant, est-ce que c'est aussi connu pour l'allemand, pour l'anglais? Quelqu'un me disait récemment que ce qui est assez étonnant, c'est que nous avons pour amour le terme qui est hérité d'amor, du latin, enfin amor, et qui pense à l'idée d'aimer, qui se réfère à l'idée d'aimer, tandis que les Anglais et les Allemands ont, comme vous le savez, lieben ou love, et c'est plutôt, je crois, liquette, enfin vous me corrigerez. Donc c'est plutôt le plaisir. Alors est-ce que justement ces nuances-là ne servent pas énormément pour apprendre Marie-Hélène Menot?
Bien entendu. C'est-à-dire que le latin et le grec, étant donné que ce sont des langues mortes non parlées, leur observation et la traduction permet une mise à distance par rapport aux langues vivantes que nous parlons. Et dès qu'il y a mise à distance, il y a évidemment prise de position et prise de possession de la langue, et on peut ainsi évoluer dans le vocabulaire, voir les différences que vous avez soulignées, et cela évidemment est un enrichissement, notamment même pour le français. Je crois que lorsque l'on pratique une langue maternelle, on ne l'observe pas. Or, si l'on passe par le détour de la langue latine ou de la langue grecque et que l'on passe dans une traduction, puisque c'est quand même, nous faisons des traductions en latin et en grec, pas de la conversation, étant donné que ce sont des langues mortes, eh bien, il y a à ce moment-là...
Mortes, j'y reviendrai.
Anciennes, oui. des langues anciennes, on va dire.
Parce que mortes,
qui ne sont pas parlées. Donc, il y a effectivement observation et observation réflexive de sa propre langue. Et donc, prise de possession.
Est-ce que vous pourriez nous parler du travail, d'ailleurs toutes les deux, mais du travail dans les ZEP et du travail avec des élèves dits défavorisés ? Je crois qu'il y a pas mal maintenant d'expériences, non ?
Oui, moi je vais donner un exemple qui m'a été donné par l'Art des Lacs, l'association de Créteil, puisque nous avons à Lacnarella 28 associations qui sont réparties sur tout le territoire. Et Mireille Caux, notamment à l'Art des Lacs, a observé que les élèves donc, qui avaient étudié le latin, notamment, avaient de bien meilleurs résultats au brevet des collèges. Et donc, c'était vraiment un élément de promotion sociale dans un collège de zone ZEP défavorisé. Et cela permettait donc une promotion sociale tout à fait importante et que l'on pouvait mesurer.
Et alors, pourquoi ça n'est pas appliqué comme un remède réel ou prôné d'ailleurs ? Parce qu'au fond, peu de gens en parlent. On vient d'en parler récemment à la télévision, je crois. Mais peu de gens en parlent, peu de gens comprennent de quoi il s'agit. Parce que aussi, peu de gens le développent. Et peu de gens l'expliquent.
Oui, enfin, c'est pas si vrai. Puisque dans notre académie, par exemple, le grec est proposé essentiellement dans les ZEP aujourd'hui. Finalement, quand vous êtes dans un quartier défavorisé, vous avez beaucoup plus de chances de faire du grec que dans le reste des villes. Et ce que nous constatons au moment des Olympiades grec-latin, que nous organisons annuellement maintenant depuis 5 ans, c'est que les établissements ZEP prennent une place tout à fait intéressante dans le dispositif et se défendent pleinement au milieu des autres pour les épreuves caput et crura que nous organisons.
La tête et les jambes, pour ceux qui ne comprennent jambes. Pas. Oui.
Voilà. Et nous avons également des hellénistes tout à fait valeureux dans les collèges de zones sensibles. Ce que je constate en tout cas, c'est que lorsque c'est fait, cela porte beaucoup de fruits. Je crois que c'est lié finalement à une mentalité un peu archaïque. Beaucoup de gens n'ont pas compris que l'enseignement du latin et du grec avait considérablement évolué et qu'aujourd'hui, justement, nous avons des professeurs très créatifs qui savent aussi beaucoup passionner leurs élèves et qu'ils créent comme ça une synergie. Et que dans beaucoup de collèges, chez nous, il y a des spectacles, un collégien chez les Romains, on travaille autour du personnage d'Adrien. On a eu, par exemple, lors d'une de nos Olympiades, un groupe carrément d'enfants vraiment en grande difficulté, c'était une SECPA, qui a organisé un défilé de mode romaine avec les couturières du lycée. Le professeur de latin les a initiés à la mode romaine et les menuisiers ont réalisé une magnifique mosaïque sous les yeux des participants des Olympiades. Ils ont été follement applaudis et on a constaté une insertion absolument remarquable de ces jeunes parmi notre public au milieu des 350 autres.
Et la réaction des parents, est-ce que les parents sont à leur tour gagné par cette chose-là, ou alors est-ce que les parents sont plutôt hostiles, voire indifférents?
J'ai le sentiment que les parents, en fait, à partir du moment où ils sont sensibilisés à l'intérêt de l'enseignement, sont tout à fait preneurs, et que notamment, actuellement, les effectifs remontent dans les collèges. Et que moi, par exemple, en seconde, je viens d'avoir mon effectif record, là, depuis quelques temps. Dans un petit lycée, nous avons 20 élèves, extrêmement motivés, dont les niveaux sont assez variés, mais que nous arrivons à faire travailler de manière très intéressante.
Nous allons revenir là-dessus parce que c'est extrêmement passionnant et nous allons parler du fameux mot qu'on nous oppose, élitiste, c'est élitiste, mais nous allons faire une courte pause.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des Alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de français à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Nous revoilà donc sur Point de Mire, Canal Académie, l'émission consacrée à la CNARELA, avec Marie-Hélène Menot, sa présidente, et Sylvie Barthes, qui est la représentante de l'ARELA Alsace. Alors, nous étions, Sylvie Barthes, en train de parler de ce fameux mot qu'on nous balance, il faut bien le dire, à tout bout de champ, qui est que lorsqu'on s'occupe de latin grec, on est élitiste.
Oui, alors évidemment, ça, c'est un passé qui nous gêne encore beaucoup. C'est vrai que le latin a été utilisé comme une matière de sélection dure et qu'il était aussi vu comme une sorte de machine à traduire. Et donc, nous avons quelques mauvais souvenirs parmi nos aînés. Mais actuellement, la matière fonctionne tout à fait différemment. Les contenus culturels sont beaucoup plus présents dans le travail. C'est extrêmement passionnant. Par exemple, avec mes élèves, nous étudions aujourd'hui l'image du chef romain idéal. Et à travers ça, nous réfléchissons réfléchissons aussi sur les modèles politiques. Donc le changement est surtout d'ordre culturel. Nous travaillons dans un sens beaucoup plus vaste et l'enseignement devient absolument passionnant. Les élèves en sont tout à fait conscients. Alors l'élitisme serait tout à fait déplacé si l'on songeait par exemple qu'on devrait priver des élèves des mathématiques ou de l'histoire-géographie sous prétexte qu'il y a eu des grands mathématiciens ou de grands géographes parmi les nobles français. Je crois que le danger serait justement, sous prétexte d'élitisme, de priver de façon antidémocratique tous les jeunes de cette culture qu'ils ne peuvent pas justement recevoir dans leur milieu d'origine.
Mais ce que vous avez l'air toutes les deux de raconter quand même, c'est qu'on prive paradoxalement ce qui s'appelait les élites cultivées, disons ça comme ça, ou les personnes cultivées. On les prive alors là du latin et du grec presque. Alors, ça devient très paradoxal.
Oui, c'est vrai. Dans notre ville, par exemple, si vous n'êtes pas dans ZEP, vous ne pouvez pratiquement pas étudier le grec lorsque vous êtes au collège, ou alors il faut aller en collège privé.
Ah bon, alors ce sont les classes favorisées qui vont donc se rebeller. Qu'est-ce qu'avez-vous à dire, Marie-Hélène Menot ?
Eh bien, effectivement, il y a un repli sur l'enseignement privé, dans la mesure où il y a des économies très, très importantes qui se font. Et je crois qu'à la rentrée 2007, après l'audit qui a eu lieu sur les lycées, nous allons observer une diminution encore des options et des regroupements des options de latin et de grec dans des lycées de centre-ville. Et cela est tout à fait catastrophique. Quand lorsque l'on voit un lycée, mettons, de Dordogne, qui se voit privé de l'enseignement du latin ou du grec parce qu'il n'a pas suffisamment d'élèves, ou pour des raisons d'économie, comme je l'annonce, hein, eh bien, cela est tout à fait scandaleux. L'élève ne se déplacera pas à 120 km pour l'amour du latin ou du grec.
Donc, il y a des disparités entre collèges et lycées aussi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un nombre important de latinistes donc, au collège. Par exemple, on en compte 20 000 et quelques. Et lorsque l'on arrive au lycée, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une chute très importante parce que le latin et le grec sont là des options qui sont facultatives, comme l'a dit Sylvie Barthes tout à l'heure, qui s'ajoutent et qui entrent en concurrence avec les classes européennes, par exemple, qui entrent en concurrence avec des options de technologie d'informatique, alors que ce ne sont pas de véritables options et que l'on ne peut pas en retirer, avantage au baccalauréat. Je tiens à dire que le latin et le grec en option facultative, comme ce sont des langues difficiles, ont maintenant un coefficient 3. Et je crois que c'est une manière de fidéliser les élèves à ces options.
Oui, je voudrais ajouter que chez nous, par exemple, le latin entre en concurrence avec la musique ou avec la religion. C'est-à-dire que dans des petits lycées qui ont une dotation horaire qui se resserre...
Parce que vous êtes en Alsace, il faut le rappeler, voilà. Pour les cours de religion, parce que ça peut surprendre
d'autres. Voilà, dans un petit lycée de vignoble. Et que justement, puisque nos élèves sont éloignés, donc à Ribeauvillé, on sont éloignés finalement des sources culturelles, c'est d'autant plus important que le latin existe. Et alors nous faisons toute une politique avec les collèges du secteur pour réussir à motiver les élèves à continuer. Mes élèves vont visiter leurs jeunes camarades, nous prenons des initiatives en commun et d'ailleurs les Olympiades sont nées de ce projet qui ensuite a rencontré un tel succès que nous l'avons étendu à l'ensemble de l'académie.
Mais alors justement, moi, ce qui m'ébouriffe dans un sens, c'est que les classes européennes, ma propre fille a 18 ans, donc elle lui a fait choisir si elle voulait une classe européenne, et je ne comprends pas qu'on ne lutte pas à l'échelon peut-être de la CNARELA, peut-être des autres, pour que dans les classes européennes, il y ait les langues originelles et la formation originelle de l'Europe, c'est-à-dire du latin et du grec. J'ai été sidérée de m'entendre dire, quand j'organisais le festival européen de latin et de grec, européen, qui a tout de suite été européen précisément, avec 6 pays maintenant, qu'on ne voyait pas ce que ça venait faire dans un projet européen.
Mais oui, mais cela est tout à fait paradoxal. Et lorsque l'on pense que, par exemple, si l'on passe une agrégation d'italien, il y a une version latine obligatoire. Si l'on passe une agrégation d'espagnol, eh bien, à l'oral, on a à choisir entre le portugais et le latin, et en général, c'est le latin donc qui est choisi. Et voilà que dans les classes européennes, eh bien, pour des raisons encore de d'enveloppe globale, hein, horaire, eh bien, on prive des élèves, effectivement, de cet enseignement qui leur serait fort utile pour, justement, comme vous le disiez, apprendre les langues dites romanes.
Oui, parce et facilement. Qu'enfin, on meurt plutôt pour un drapeau que pour un euro, enfin, pour une langue que pour un euro.
Dans certaines classes européennes, d'ailleurs, ce qui est terrible, enfin, dans notre situation, c'est que si un chef d'établissement est favorable, eh bien, il va effectivement favoriser l'enseignement du latin, même dans une classe européenne.
Et c'est le cas chez nous, Marie Beauvillé, par exemple. Nous avons un proviseur qui nous soutient. Donc, grâce à elle, nous parvenons à maintenir l'enseignement.
Ils sont formidables, Marie Beauvillé, non ?
Mais je crois que pour aller plus loin autour de ce sujet, je crois que c'est presque plus grave. Nous vivons dans la Reggio, donc dans une région autour du Rhin, que nous partageons avec des Suisses, des Allemands, des Alsaciens. Oui. Et nous avions organisé en 2002 les premières rencontres internationales de jeunes latinistes, où nous avions invité des lycéens donc suisses et allemands autour de la passion de l'Antiquité. Nous sommes le berceau de la culture humaniste et pourtant l'académie la plus sinistrée en matière de langues anciennes en France, ce qui est totalement paradoxal. Et nous avions organisé donc des conférences, notamment autour de l'humanisme dans la Reggio, qui ont réuni plus de 1500 adolescents. Finalement, nous rendons compte, nous avions dû refuser des inscriptions à ces festivals, qu'il y a beaucoup de demandes. En fait, je crois que c'est simplement une question de gestion budgétaire, mais je crois que c'est aussi une question d'aveuglement. Nous sommes dans une société trop marchande qui oublie finalement que la citoyenneté, que la solidarité, que les relations internationales, l'accueil de l'altérité sont liés à la curiosité culturelle, sont liés à la capacité de
savez,
se sortir du quotidien.
Il faut toujours prendre l'argument de l'adversaire. Or, économiquement, c'est une force, le latin grec, parce que pour deux raisons. L'une, par exemple, vos Olympiades, mon festival attire un chiffre d'affaires à la région, disons-le, ça s'appelle comme ça. Mais surtout, on parle beaucoup d'immigration et de politique d'immigration. On ne parle pas beaucoup d'Hannibal et d'Amilcar, on commence. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, c'est les Maghrébins qui parlent d'Amilcar et d'Hannibal.
Bien sûr.
Ils nous répliquent, Hannibal. Alors nous allons chercher qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléphant et tout le monde est dans son dictionnaire. Donc, il est très intéressant de voir que finalement, nos caractères latins et grecs, mais moins grecs en l'occurrence, nous reviennent, c'est-à-dire on nous en demande justice. Alors, pourquoi ne nous en servons-nous pas ? Pourquoi y a-t-il une telle séparation ? Ce qui m'a beaucoup sidérée aussi, Madame Menot. Alors ça, peut-être, vous pouvez me dire, parce que vous êtes plus directement là-dessus. Pourquoi est-il si difficile de mobiliser en même temps des professeurs de langues anciennes, des professeurs d'histoire de l'art, les professeurs d'histoire, voire les professeurs de géographie, et y compris les professeurs d'autres disciplines, même les sciences et les techniques ? Bon, alors, pourquoi ne peut-on organiser, ou alors est-ce que c'est simplement parce qu'on n'a pas eu encore le courage de prendre ça à bras le corps et qu'on peut le faire, mais une concertation entre tous ces gens qui ont bien besoin d'échanger des informations. Parce qu'on dirait que tout est tronçonné. Autrefois, les professeurs se parlaient entre eux, entre disciplines. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, est-ce que ça tient aux associations elles-mêmes qui n'ont pas très envie de correspondre entre elles? Est-ce que ça tient à ce qu'elles sont le nez dans le guidon, parce qu'il faut bien défendre beaucoup de choses à la fois? D'où ça vient? Est-ce que c'est très français? Est-ce que... Je ne sais pas. Et comment y remédier, bien sûr, parce
alors,
que si je
comment
vous
y
ça,
remédier? Oui, effectivement, chacun défend son lopin de terre. C'est,
porte,
une,
oui.
C'est une chose. Je crois que si les programmes étaient plus transversaux, comme l'on dit actuellement, cela pourrait effectivement favoriser ces échanges. Je vois par exemple en terminale, en grec, que nous travaillons beaucoup avec le professeur de philosophie, étant donné que nous avons Platon au programme. Nous travaillons avec le professeur d'art plastique qui profite donc
Bordeaux,
à notre demande
dire,
à Bordeaux,
hein,
oui,
à Bordeaux.
Au lycée Montaigne,
voilà,
qui profite donc, nous profitons de sa présence, puisque nous avons des classes préparatoires, donc avec l'option art plastique. Il intervient, il vient commenter la mort de Socrate par David. Bon, tout cela, c'est quelque chose qui est tout à fait enrichissant. Alors, je crois qu'il y a actuellement une révision des programmes de lycée qui va être publiée au mois de janvier. Et nous faisons entrer la commission qui s'occupe donc de ces programmes, fait entrer justement dans les programmes de lycée les recherches scientifiques et une entrée donc sur la science. Et je pense que cela va être un moyen de travailler, si nous le pouvons, avec nos collègues de sciences de la vie et de la terre et de physique. Mais alors, souvent, nous travaillons avec les collègues de sciences de la vie et de la terre.
Aussi, oui. vous m'avez dit aussi que vous axez beaucoup de choses aussi sur les nouvelles technologies. Il y a tout un travail de liaison, de lien avec les nouvelles technologies. En particulier dans ce projet Circé qui m'a fait bondir, car il ne s'agit pas de la dame qui changeait les hommes en cochons. Qu'est-ce que c'est Circé ?
Alors, donc, le projet Circé, c'est un projet de la Commission européenne qui vient d'aboutir.
Ça veut dire quoi, Circé ?
Alors, Circé...
Vous savez plus, hein, avec tous ces sigles.
Cela veut dire, non, c'est donc un sigle anglais.
Oui, et ah bah c'est du propre encore.
Voilà, exactement.
Voilà une grecque qui couvre
75% de vocabulaire anglais.
Là, parce qu'il faut que je vous recherche exactement.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, enfin bref, Circé, voilà. nous allons expliquer.
Oui.
Nous allons expliquer ce programme. Bon, alors.
Alors, Circé. Donc, la Commission donc, européenne a commandé aux pays européens qui étaient intéressés de créer, par l'intermédiaire donc des nouvelles technologies, des séquences de latin et de grec qui seront échangées donc par avec donc tous nos collègues et qui seront communes à l'Europe. Alors il y a donc l'Italie, il y a la Grèce, il y a la France évidemment. Donc il s'agit de Mireille de Biasi du collège de Trémontex, donc de l'Arre et la Claire, Clermont-Ferrand, qui s'est chargée du projet. Et il y a donc un site tout à fait intéressant qui est www.circe.be sur lequel donc les collègues, les élèves peuvent aller rechercher des ressources.
Très bien. Alors oui, quel est le rapport avec les nouvelles technologies, je veux dire, en gros, qu'est-ce qu'on développe, voilà. Je comprends bien que c'est sur Internet.
On développe des échanges entre professeurs. Je pense que cela va être aussi fédérateur pour les langues anciennes, puisqu'on a choisi ces disciplines peut-être de façon un peu surprenante. Et effectivement, cela donc est tout à fait enrichissant. Et nous pensons pouvoir avoir davantage de relations avec les autres pays européens de façon à pouvoir se fédérer autour du latin et du grec en Europe.
Bon, ce qui est extraordinaire quand même, il faut vous le dire, c'est que lorsque je pianote sur... D'abord, ça me paraît simplement un échange Internet. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de travail avec, par exemple, les classes. Moi, ce que je suggère d'ailleurs, parce que pour le prochain festival... Sur la publicité, mais c'est très important, nous lançons un appel à tout le monde donc, pour faire des jeux, et en particulier des jeux Internet, des jeux de console, des DVD-ROM, etc., etc. Donc c'est l'utilisation des nouvelles technologies, carrément. Et cela peut-être en connexion avec des classes d'informatique, pour montrer que tout ça est tout à fait neuf. Tout à fait neuf. Madame Sylvie Barthes est en train de bouillir, parce que ça, elle connaît.
C'est-à-dire que nous avons justement choisi d'essayer d'utiliser les technologies...
Toujours à Ribeauvillé. Hein.
Voilà, Ribeauvillé, en Alsace, de manière générale, vraiment au service d'une communication qui avait un contenu. Parce que le problème n'est pas seulement de communiquer, c'est qu'est-ce qu'on communique. Et nous, notre matière est très très riche et très intéressante, et elle continue d'ailleurs vraiment d'inspirer l'époque d'aujourd'hui. Nous allons ouvrir très bientôt là une exposition qui s'appelle Archéopub et qui va être inaugurée mercredi prochain, qui présente justement la manière dont la publicité s'empare des symboles de l'Antiquité pour vendre aujourd'hui des produits. Bon, alors que faisons-nous, nous, en Alsace ? Eh bien, par exemple, nous avons mené au lycée de Ribeauvillé une opération qui s'appelle l'Odyssée du futur. Depuis 5 ans, donc, nous produisons tous les années, un an et demi, une création. Nous avons commencé par un film qui s'appelle En 2000, l'Odyssée du futur, puis une bande dessinée, Rome, la porte du destin. Enfin, un roman autobiographique qui s'appelle Winnie Widi Wixie, journal d'une romaine en Alsace. Et nous continuons actuellement sur la préparation d'un spectacle sur Sénèque qui va utiliser justement des technologies comme l'image projetée. Les élèves vont réaliser un certain nombre d'images sur Internet à travers la technologie, toutes les technologies modernes. Nous sommes aussi en train de créer un site Internet avec les élèves. Donc,
n'est-ce pas, Madame Benoît ?
Alors, il existe aussi chez nous un site qui marche très bien, celui de Gilbert Guinness, qui s'appelle Antiquitas Modernitas, qui est aussi donc animé par des jeunes et qui avait reçu un des prix à notre concours de réalisation pédagogique que nous appelons Anima Muse et que nous récompensons par des muses d'or, d'argent et de bronze.
Alors, nous allons poursuivre et Madame Marie-Hélène Menot va nous parler aussi des autres arrêts-là, parce qu'il faut qu'elle nous dise aussi quelles sont certaines des arrêts-là. Elle ne peut pas parler des 28, ce n'est pas possible, mais enfin, certaines des arrêts-là un peu qui inventives, etc. Et va nous répondre à une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi n'y a-t-il pas trois jours ? Moi, je fais un festival européen de latin grec. Pourquoi ne ferait-on pas une journée de festival Arrêt là.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Alors, nous reprenons Point de mire avec la CNAREA, Marie-Hélène Menot, sa présidente, Sylvie Barthes du lycée de Ribeauvillers. Et Marie-Hélène Menot, nous avons entendu l'enthousiasme, les dieux sont avec nous, de Sylvie Barthes. Je suppose qu'il y a d'autres arrêts-là pleines de fougue et d'enthousiasme. Il y a aussi la PLG, il y a aussi d'autres associations locales, diverses et variées, qui sont en relation aussi avec vous. Parce que vous me dites, la CNAREA, ça n'existe pas.
Alors, la CNAREA est une coordination nationale de 28 ARELA, qui sont associations régionales de langues anciennes, qui sont réparties dans les académies. Et ceci, c'est ce qui fait la force de la CNAREA, puisqu'elle réunit environ 5500 adhérents, professeurs de collège, de lycée et d'université.
Alors, d'université aussi, oui.
D'université également, oui. Et je crois enfin que nous avons intérêt, et les universitaires ont aussi intérêt à travailler en liaison avec l'enseignement secondaire, tout à fait.
Nous l'avons obtenu, nous, en Bretagne.
Alors, nous parlons là des Olympiades, nous parlons donc de cela. Il faut savoir que sur toutes les associations, sur toutes les arrêts-là, eh bien, il y a 11 associations qui organisent les journées de l'Antiquité et 12 associations qui organisent des concours. Mais ce qui est tout à fait important, c'est que les associations soient vivantes dans leur académie. Alors certes, il faut faire des manifestations comme par exemple le festival qui est tout à fait important puisque cela est médiatisé, cela touche le public, mais le travail à la base est absolument indispensable. Et c'est ce qui fait la force de la CNAREA qui existe depuis 1984.
Et est-ce que vous pouvez citer... Oui, qu'est-ce qui a fondé la CNAREA, d'ailleurs ?
Alors, eh bien, cela s'est fait à l'initiative de Besançon. Et c'est...
De la ville de Besançon. Parce que nous avons un académicien qui s'appelle Julien Besançon.
Ah bon, de la ville de Besançon. Oui. Qui avait fondé une association régionale de langues anciennes. Cette association est venue visiter les Bordelais qui ont fondé l'Arrêt Labor et l'Arela Bordeaux. Et à la suite de cela, Odile Mortier-Waldschmidt, qui est une universitaire, est devenue la présidente de la CNAREA, et c'est elle qui a fondé donc la CNAREA. Ensuite, il y a eu donc Jeannette Boulet, qui était de l'Arelas Strasbourg, qui a été donc présidente. Lui a succédé Isabelle Lejot de l'Artela Toulouse. Et ensuite, eh bien, je suis devenue présidente donc de la CNAREA.
Alors, de par votre expérience et vos observations, qu'est-ce que vous citeriez parmi les arrêts là? Est-ce qu'il y en a des spécialement? Bon, on ne peut pas, encore une fois, tout citer, on ne peut pas faire de jaloux, mais est-ce qu'il y a des initiatives assez intéressantes, surprenantes ou en profondeur qui vous
parle
plus que d'autres?
Bon, je peux citer les journées de l'Antiquité de l'APLG, qui sont donc... Yves Touchefeu a été l'un des premiers à organiser ces journées de l'Antiquité. Il faut dire que ces journées de l'Antiquité sont une semaine, au mois de mars, qui est fixée en relation avec l'association qui s'appelle l'APLAES et qui est l'association des professeurs d'université. L'APLAES fixe une semaine, donc en général on l'a choisie en dehors des vacances, au mois de mars, et l'ACNARELA, en coordination avec l'APLAES, eh bien, organise avec plus ou moins de bonheur donc, les journées de l'Antiquité.
Étant très, très lié avec les journées de l'Antiquité, parce que nous formons le Grand Ouest finalement, je dois dire que c'est d'un dynamisme et je rends ici hommage aussi à Yves Touchefeu, parce que vraiment il fait un travail absolument prodigieux.
Ah oui,
il
parce
est très
que
bien
c'est,
entouré.
C'est un très très gros travail. Alors énorme. Je peux citer aussi l'Arella de Clermont, qui n'est pas surtout, enfin, son activité se fait autour des concours, puisqu'il va jusqu'à avoir 1500 candidats au concours. Il y a également...
C'est des concours
donc,
dans le second... giron de l'inspection académique, je suppose.
Exactement.
Oui, c'est ça.
Exactement. Mm-hmm. Hein, c'est dans l'académie.
Oui, ce n'est pas des concours ouverts à tous. Oui.
Non. Oui. Ce sont des concours régionaux. Mm-hmm. Régionaux. Et donc, ensuite, les élèves sont récompensés par des livres, des disques. Il y a donc parfois un voyage. Nous avons souvent offert un voyage. Et puis, bon, cela est devenu un peu compliqué. Mais donc, c'est l'occasion d'une manifestation. Les élèves sont souvent reçus au rectorat. Et cela a un caractère officiel qui est important. On le note sur leur bulletin.
Est-ce qu'il y a des liens avec le monde très... Parce que finalement, je me suis aperçue qu'il y avait peu de liens avec le monde non universitaire ou non scolaire. Ce qui m'a frappée quand finalement j'ai inauguré cette histoire un peu bizarre, c'est que justement, il y avait un manque, il ne faut pas exagérer, mais enfin un creux de liens. Au fond, c'est le lien et le lien. Il y a tellement de gens doués, tellement de gens passionnés, tellement de gens merveilleux et tellement de saints, parce qu'il faut bien dire que le monde sera sauvé par les saints laïcs. Absolument, pas tous ces professeurs merveilleux, tous ces gens, tous ces parents, tous ces jeunes gens d'ailleurs aussi. Et puis, toute cette énergie, tout ce courage et au fond, mal relayé, alors pas mal relayé par les gens eux-mêmes, etc., il n'y a pas les canaux, tout simplement, pour les relayer. Est-ce que c'est si difficile ou est-ce que, au fond, ça ne rapporte pas, donc on ne s'y penche pas?
Je pense qu'il y a, cette raison, et puis il y a aussi...
Mais ça rapporte, je peux vous le dire.
Que, oui, il y a le fait, si vous voulez, que le latin et le grec, disons, ne rapportent pas directement à l'élève. Et ceci, cela est sensible, notamment dans la filière littéraire qui est presque moribonde.
Oui. Alors oui, il y a aussi cette histoire du dépotoir. Alors je vais laisser passer les civils, mais vous m'avez dit tout à l'heure toutes les deux quelque chose d'intéressant, c'est que je ne savais pas qu'en Europe, nous sommes les seuls en France à avoir ce qu'on appelle un grand terme, la trivalence, c'est-à-dire qu'on est à la fois prof de latin, de grec et de français, de langue française. Alors Sylvie Barthes, donc dans ce contexte, pouvez-vous nous parler de ça et de ce dont nous venons de parler aussi?
Alors, ce que je constate à travers les Olympiades, bien sûr, et d'autres manifestations ici dans l'Académie, c'est que la communication se fait très très bien autour des projets. C'est-à-dire que les journalistes sont tout à fait intéressés par ce que nous proposons et y voient beaucoup d'intérêt. Et la société civile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est toute prête finalement à s'enthousiasmer pour ce que nous proposons parce qu'elle voit enfin une jeunesse qui se mobilise pour quelque chose qui semble avoir du sens et puis qui parle aussi aux adultes. C'est un monde moins moins fermées pour les adultes aujourd'hui que ne le sont par exemple les festivals de R&B ou de rap. Et donc ils sont prêts à s'engager avec nous. Et nous, ce qu'on constate, c'est que les collectivités locales, notamment en Alsace, les conseils généraux et surtout le conseil régional, sont très intéressés par tout ce qui est qui va au-delà des frontières et qui va donc proposer des projets culturels où les jeunes sont actifs. Et j'insiste là-dessus, nous sommes dans des cultures souvent passives actuellement, on achète la culture. Et dans le grec et le latin, eh bien, on ne peut pas proposer de projet sans devenir acteur de sa formation. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est très très encourageant effectivement d'avoir des jeunes qui proposent, qui organisent, qui conçoivent, qui animent, qui conduisent et qui défendent des projets. Et je crois que c'est vraiment là que nous retrouvons notre jeunesse. Notre jeunesse, celle que nous attendons, celle qui veut construire un monde avec des forces qui ne soient pas uniquement matérielles. Nous travaillons avec peu de moyens, mais nous sommes soutenus par un enthousiasme qui donne vraiment, vraiment du corps à nos projets. Et moi, je constate que les jeunes qui, au bout de 3 ans, ont travaillé sur des projets comme ça, se sont cultivés en profondeur, sont des adultes intéressants, des adultes porteurs, et ceux dont la société a besoin aujourd'hui, les cadres dont la société a besoin aujourd'hui.
Oui, avec des modèles d'ailleurs, des héros. Parce que finalement, La mythologie et les héros grecs sont là aussi pour proposer des héros. Moi, je me rappelle ma fille qui demandait si je ne pouvais pas payer à l'école, quand elle était petite évidemment, pour qu'on apprenne les héros. Oui. Je crois que beaucoup d'enfants pourraient dire ça.
Ce qui est tout à fait regrettable, hein, il y avait un concours qui avait été initié par l'inspection générale et par le précédent ministère, « Mythe et réalité ». Hein, qui a donné d'ailleurs de très bonnes productions que l'on peut voir sur le site d'EducNet. Et hélas, le ministère actuel n'a pas reconduit cette expérience.
Oui, et le ministère actuel n'a pas non plus donné son patronage au festival, contrairement à Monsieur Fillon. Mais Monsieur Donnedieu de Vabre a rattrapé la chose et semble le soutenir.
Oui, je pense que là, on sent aussi finalement la synergie des adultes. Moi, Je n'ai jamais été déçue par les jeunes qui travaillaient avec moi, mais par certains adultes, certainement. Parce que c'est lorsque les adultes n'entendent pas finalement l'attente profonde des jeunes, leur élan, et ne les honorent pas, qu'il y a malentendu. Et parfois, on ne comprend pas très bien pourquoi notre jeunesse nous échappe, mais c'est vrai que si on se met un peu à son écoute, on s'aperçoit qu'elle a des choses à proposer et que nous n'avons absolument pas à désespérer de nos lycéens et de nos collégiens, certainement pas.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Madame Benoît, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Parce que finalement, là, nous sommes en train de nous battre, mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter réalistement, je ne sais plus comment on dit, de manière réaliste, de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui nous promettent en ce moment de nous gouverner. Qu'est-ce qu'on peut en attendre raisonnablement? Et Sylvie Barthes, je vous demanderai, qu'est-ce qu'on peut en attendre d'une manière un peu folle?
Alors, raisonnablement, je crois qu'il faudrait que nous obtenions d'avoir une filière littéraire redynamisée, car elle est actuellement en dessous de 8% en ce qui concerne la fréquentation, et que cela fait longtemps que la CNARELA a tiré la sonnette d'alarme en vain, et que cette filière littéraire est quantitativement et qualitativement et très bas.
Alors, qu'est-ce qui l'a tué? La sociologie, la psychologie, puisqu'on dit que c'est engorgé par la sociologie, la psychologie et les logiques diverses. Est-ce que tout simplement, on ne sait plus le français? On ne sait plus à quoi sert le français? Parce que récemment, je parlais avec des scientifiques et vous savez qu'on a ici une rubrique qui s'appelle « Rayon gamma facteur epsilon » où nous demandons à des académiciens des sciences de nous parler de l'importance des humanités. Et à peu près tous sont là pour dire que, en tous les cas, une bonne langue porte les bons concepts et que sans langue littéraire maîtrisée, il ne peut y avoir de science et de conscience par conséquent. Donc c'est que la sociologie, la psychologie, tout ce qui en découle a envahi le champ littéraire.
Oui, il y a eu une attraction de la filière ES, c'est-à-dire économique et sociale, hein, Et également, la filière ES attire les élèves comme étant la filière donc la plus généraliste. Et il se trouve donc que la filière littéraire, depuis qu'elle a perdu, entre guillemets, l'option mathématique, est effectivement très bas.
Oui, parce que j'étais très choquée de savoir. Oui. Quelqu'un m'avait demandé donc quelle était la possibilité quand on faisait à la fois mathématiques et littérature. Oui. Or, moi qui appartiens à la vieille époque, je connaissais, j'ai passé le bac à prime.
Oui.
À prime,
oui.
Vous aviez la possibilité maths et vous aviez la possibilité littéraire très longtemps.
Oui.
Alors, quand est-ce que ça a sauté, ça? Vous le savez? Enfin bon, ça a sauté depuis un bon moment.
Oui. déjà, c'est après 68,
hein, oui, c'est ça.
Cette fameuse
filière à prime. Et donc, c'est une catastrophe.
Oui, mais nous avons eu jusqu'en, je pense, ça devait être jusqu'en 91, hein, un peu plus tard, peut-être 95, il y avait une option mathématique qui était avec un fort coefficient et qui attirait ainsi des élèves bons en mathématiques et bons en lettres en section littéraire. Maintenant, actuellement, les bons littéraires, je généralise, hein, bon, les bons littéraires sont en section scientifique. Alors, il y a donc cet aspect et c'est tout à fait dommage parce qu'on se rend compte que nous avons au concours littéraire, il y a donc une possibilité pour des élèves de présenter les concours commerciaux. Et à ce moment-là, on se rend compte donc que les chefs d'entreprise, notamment j'ai vu un compte rendu du chef d'entreprise donc de L'Oréal, qui disait qu'il était tout à fait satisfait des littéraires parce qu'ils avaient une grande facilité d'adaptation. Et je pense que un moyen de rénover la filière littéraire, c'est peut-être une utopie, mais je crois que ce serait de rendre la langue ancienne obligatoire.
Ah, donc nous nous rejoignons. Attendez une seconde, je laisse Sylvie Barthes nous raconter ses rêves. Nous arrêtons encore un tout petit moment.
Balzac,
Maupassant,
Proust,
Guizot,
Chateaubriand.
Les grands noms de la littérature étudiés par les meilleurs spécialistes se retrouvent dans Au fil des pages.
En direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Nous reprenons l'émission Point de mire avec la CNARELA, sa présidente Marie-Hélène Menot, Sylvie Barthes qui nous vient direct d'Alsace et du lycée de Ribeauvillet. Nous étions en train de parler des désirs réalistes et des rêves. Marie-Hélène Menot nous a concentré son désir, et elle a raison certainement de le faire, sur la nécessité de rétablir tout simplement une filière qui n'existe presque plus, qui est moribonde, qui est la filière littéraire, qui n'existe plus en tant que telle. On ne sait plus parler, on ne sait plus penser, on ne sait plus écrire, on ne sait plus lire. D'autre part, j'ajouterai, avant de laisser la parole à Sylvie Barthes pour ses rêves, et Dieu sait si elle en a, qu'on passe son temps et sa vie à des choses tout à fait inutiles qui rongent l'énergie des élèves. Je parlerai des cours de méthodologie, je parlerai des cours, des options qui sont de fait des soutiens et qui ne sont pas vraiment des cours. Bref, il y a une terriblement mauvaise, sans entrer dans tous les détails, qui nous prendrait trop de temps et qu'on aura, je l'espère, oublié dans un ou deux ans parce qu'on aura veillé à ça. J'espère que nos politiciens se pencheront sur le problème, quel qu'il soit. Il y a une extraordinairement mauvaise gestion du temps. Donc là, nous le constatons, nous ne pouvons que souhaiter que tout ça disparaisse. Mais là encore, soyons réalistes dans le rêve, ce qui est la seule possibilité. Mais comme disait le cher Guillaume d'Orange, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ou de réussir pour persévérer. C'est bien votre devise, Sylvie Barthes, n'est-ce pas ?
Oui, mais ce que je constate, en fait, c'est que nous sommes là dans un enjeu de société. Je crois que ça dépasse simplement la question d'une gestion financière. On a oublié en Occident, je crois, que l'être humain repose sur trois pieds, j'allais dire. Hein. Le soma, le corps, la psyché qui pourrait être l'intelligence, mais il y a aussi pneuma, le souffle. Et ce qui nous manque, ces artistes.
L'énergie chinoise.
Ce qui nous manque, ce sont ces artistes. Qu'est-ce qu'un artiste ? C'est quelqu'un qui va dire que nous avons des liens à créer, que nous ne sommes pas tout seuls, que nous ne sommes pas que pure rationalité ou pure fonctionnalité physique. Et c'est ça qui va donner sens à notre existence, mais qui va aussi créer du lien social. Nous sommes aujourd'hui en panne de lien social et je crois profondément qu'une section littéraire et puis des élèves qui sont éveillés à l'aspect littéraire et artistique de la vie donnera une société qui va se redresser. Nous sommes en panne d'élan. Mais je crois qu'à travers ça, il y a un élan profond. À ce moment-là, l'être humain est accepté dans tout ce qu'il est, dans sa dimension créative également. Et il y a possibilité, du coup, d'inventer du neuf. Et je crois qu'aujourd'hui, on aura moins besoin de dépenser beaucoup d'argent que de se cultiver et de réfléchir comment tisser du lien avec des moyens simples, des moyens de convivialité, des moyens qui créent du sens. Et qu'à travers les technologies qui peuvent devenir finalement des gadgets, on retrouve véritablement une communication qui pèse ces mots, qui sente derrière les mots de l'autre autre chose que simplement de l'argent, mais une personne. Et je crois vraiment qu'à travers notre enseignement, c'est ça l'enjeu. Je pense que le monde en a besoin.
C'est-à-dire qu'il faut que nous devenions des idiots et non plus des imbéciles, idiotesse étant l'individu et imbécilis le faible. Mais sans plaisanter, en effet, peut-être vous dites le lien social toujours, mais après tout, est-ce que ce n'est pas le lien poétique que nous avons perdu ? Parce que le lien de rapport à l'univers et à tout ce qui nous entoure, qui n'est pas forcément... uniquement social. Quand vous parliez de pneuma, on réduit beaucoup le pneuma, la psyché, et vos trois jambes m'évoquaient Œdipe, puisque c'est la fameuse énigme du sphinx.
Oui, profondément, à travers le pneuma, c'est bien la personne, c'est bien pourquoi construisons-nous une société, vers où allons-nous, qu'est-ce que nous cherchons finalement à proposer et à construire ensemble, qui se pose. Et je crois qu'à travers l'expérience de nos ancêtres, nous avons des réponses.
Alors
questions.
Certains vous diront, ce n'est pas nos ancêtres. Mon ancêtre, c'est Amilcar ou c'est l'empereur de Chine.
Je crois que c'est vrai à certains points de vue et je crois qu'effectivement il y a à nouer un dialogue. Mais si nous ne connaissons pas nos origines, comment pouvons-nous communiquer avec celles des autres ? Cette fascination que nous avons notamment pour toutes les traditions exotiques, n'est-elle pas finalement le reflet de notre propre ignorance ? Je crois qu'il y a aussi à recevoir notre culture aujourd'hui en Europe comme une chance et non pas comme une condamnation. Il y a vraiment un enjeu aussi pour que l'altérité continue d'exister et de dire stop à la pensée unique.
Oui. Puis, je crois aussi, il faut dire que nous avons modifié un peu notre approche de l'Antiquité. Je crois qu'on s'est beaucoup intéressé aux sciences humaines et à l'Antiquité à travers les sciences humaines et que nous n'avons pas une admiration béate pour ces anciens, mais nous essayons de comprendre, de voir aussi leurs erreurs et d'interpréter notre monde moderne à travers eux. Et nous ferons ainsi une Europe forte également à travers la latinité, l'hellénisme et en comprenant ce passé.
Je crois aussi qu'il y a là un antidote très important contre une tendance contemporaine un petit peu aveugle qui consisterait à penser qu'il existe des peuples purs ou des origines pures. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de la culture pour entrer, je dirais, dans une véritable humanité.
Et donc, de la mémoire, ne faisons pas table rase pour parler d'un autre danger.
Et je crois que c'est vrai que ça pose des questions, parce qu'il y a eu des nazis qui étaient d'éminents hellénistes. Je crois que c'est la manière dont nous enseignons qui, aujourd'hui, donne corps à ces textes et leur donne aussi tout leur sens. C'est pourquoi c'est tellement important qu'aujourd'hui, nous réfléchissions sur le plan culturel aux textes que nous traduisions, ce qui était beaucoup moins le cas auparavant. Et je crois que la mutation de notre enseignement vraiment a été profondément à l'écoute des besoins de notre société et qu'on méprise de façon tout à fait injuste un enseignement qui, vraiment par rapport à beaucoup d'autres, a su vraiment s'adapter, a su réfléchir en profondeur à ses objectifs et à ses moyens.
Et nous a donné la science, la technique, car nous le sommes la seule civilisation, pour le meilleur et pour le pire, à les avoir inventées. Et nous a donné la politique, nous a donné la philosophie, nous a donné tous, et la démagogie hélas, enfin nous a donné tout ce sur quoi nous vivons. Alors je laisserai peut-être la dernière phrase à Jacqueline de Romilly que j'avais interviewée, et j'espère ne pas la trahir, mais elle me répondait approximativement et de mémoire, quand on parlait de l'information et de la circulation de l'information, elle disait qu'au fond, nos journalistes vont au plus rapide, alors que les Grecs et les Latins nous ont appris à aller au plus profond. Nous pourrions peut-être le récupérer. Voilà, je remercie mes invités, donc Marie-Hélène Menot, qui est présidente de la CNARELA, c'est-à-dire de la coordination nationale des associations régionales des professeurs de langues anciennes, et qui est aussi d'ailleurs au lycée Montaigne à Bordeaux. Je remercie Sylvie Barthes, qui nous vient tout droit de l'Alsace. Elle est venue vraiment pour cette émission parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle défend. Elle nous vient du lycée de Ribeauvillers. Et nous les remercions d'avoir ensemble pu parler de l'avenir et encore de l'avenir.